www.libradio.org. Il y a un avant et un après Libradio.
On a eu une fois une personne de droite qui a débarqué avec un taser et qui nous a un peu menacé. Bon, l'histoire est cocasse. Au final, il était évidemment alcoolisé et il s'est tasé lui-même. Mais c'est le seul plus gros incident qu'on a eu. Et encore une fois, on a réussi à gérer ça diplomatiquement. Et voilà.
Les activités. Alors, quelles activités y a-t-il à l'intérieur et à l'extérieur? À quoi passez-vous votre temps? Je vous pose cette question-là parce qu'on sait bien que des fois, le simple fait d'attendre comme ça, eh ben, c'est un peu bof-bof. Mais ça n'est pas votre cas. Et notamment, il y a cette collaboration avec des agriculteurs, si je me trompe pas. Mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Alors, voilà, les activités à l'intérieur et à l'extérieur, c'est quoi? Est-ce que vous fabriquez des trucs? Est-ce qu'à l'extérieur, vous collaborez avec des gens? Dites-nous.
Je pense qu'il faut voir la ZAD un peu comme une micro-ville en fait, ou un micro-village. Enfin, il s'y passe vraiment la blinde de choses en fait. Je voulais un peu introduire par ça pour poser un peu le contexte, mais c'est clair que t'auras de tout. T'as du coup des gens qui vont chercher de l'eau, t'as des gens qui construisent des trucs, t'as d'autres personnes qui font de la médiacom. Enfin, c'est assez vaste. Mais je pense qu'on peut chacun un peu dire ce qu'on fait un peu plus dans nos journées personnelles. Mais vraiment, je pense que si tu posais la question à chaque personne qui ont passé une semaine sur ce lieu, tu aurais des réponses très différentes. Et moi, il y a des tâches, ça fait un petit bout de temps quand même que je suis là, que je n'ai même pas encore eu le temps d'essayer de faire.
Ah, donc, mais ça veut dire qu'on ne s'ennuie pas.
Ah non.
Alors voilà, on peut résumer sans qu'on entre trop dans le détail qu'à l'intérieur, ça fourmille, que j'imagine, voilà, il y a des ateliers, il y a des échanges de savoir, il y a plein de choses comme ça, j'imagine.
Il y a aussi cette volonté de partage de savoir, de connaissances, de savoir aussi que nous, on ne détient pas tout, on est là pour apprendre. Donc, il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour donner des ateliers, il y a des gens à l'intérieur qui donnent des ateliers. On sort aussi aller rencontrer d'autres gens. Et il y a vraiment cette volonté aussi de réunir et de créer une sorte de réseau, de mouvement qui est interconnecté et d'avoir une sorte de convergence des luttes.
La beauté aussi de ce lieu, c'est aussi un peu de la possibilité de se laisser inspirer en fait la journée et un peu de regarder de quoi on a envie de faire aujourd'hui et puis de se mettre de chercher des alliés pour faire cette chose que tu as envie de faire. Et puis ça laisse ouvert aussi. On n'a pas besoin de le faire de 8h à 5h le soir. C'est complètement ouvert. Quand est-ce qu'on a envie de faire quelque chose?
Oui. Donc, le droit à la paresse est également un droit qui a cours au sein de la ZAD.
Absolument, oui.
Très bien. Est-ce qu'on peut résumer en disant que les barricades sont résolues, mais poreuses, et que donc, vous n'êtes pas en situation de siège, même si pour certaines choses, eh bien, effectivement, vous êtes... Vous protégez, mais qu'en même temps, eh bien, les alliés, comme on vient de le dire, eh bien, facilement peuvent accéder, qu'il y a des interactions et que des gens peuvent vous visiter, rester même un petit moment sur place pour comprendre ce que vous faites.
Ouais, la ZAD, c'est, enfin, comment dire, on est ouvert à toute aide et on essaye d'être accueillant avec toutes les personnes qui veulent venir nous aider. Il y a évidemment un peu une culture de sécurité qui est mise en place pour protéger les différentes personnes qui habitent le lieu et qui le font vivre. Mais globalement, comme tu dis, nos barricades sont poreuses et on essaye de partager avec le plus de personnes de l'extérieur. On a un peu aussi cette volonté qui est malheureusement mis à mal aujourd'hui, évidemment, comme pour beaucoup d'autres lieux avec le Covid. Mais on a cette volonté d'être un peu un nœud du réseau militant et puis d'accueillir d'autres collectifs et de pouvoir vraiment partager et être un peu un espace où qui est accessible aussi aux autres collectifs pour partager des connaissances, pour grandir et pour renforcer notre mouvement qui est quand même multilute et assez large.
Ouais. Et puis alors, s'il y a ces collaborations avec les paysans, les agriculteurs du coin, non ?
On a plusieurs collaborations avec plusieurs paysans du coin. On sort du creux de l'hiver, du coup, ces collaborations reprennent gentiment. Quand on arrive en octobre, on avait pas mal de taf avec différents agriculteurs du coin. On était par exemple récolter des haricots ou planter des graines en dormance pour l'hiver. Enfin, il y a plein de petits projets qui se sont mis à gauche à droite, des fois en troc, des fois juste pour échanger, pour partager, des fois aussi juste par passion et par envie de développer un peu l'agriculture locale et d'aider les paysans. Et c'est clair que c'est des échanges qui sont assez riches. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est drôle, c'est vendredi et c'est le jour où on va justement bosser dans une ferme qui est dans le village même où se trouve la ZAD.
Alors, encore quelques questions comme ça sur les côtés plutôt sympas du truc. Et puis après, on viendra sur les sujets qui fâchent et notamment, bien entendu, la Fargolcim. Mais avant cela, j'ai encore voulu vous questionner sur... si vous êtes d'accord, hein, si on prend un petit peu de temps, mais moi, ça me paraît super important de prendre ce temps, quoi.
Ouais, avec plaisir.
Ça vous va ? Ok. Alors, on y va. Les voisins, les habitantes et les habitants, sont-ils des ennemis ou des alliés ? Ou ni l'un ni l'autre ?
Ce qui me surprend chaque fois, en fait, ici, c'est qu'il y a des gens, des personnes qui passent et ils disent que c'est super ce qu'on fait, c'est tellement beau, ils nous soutiennent à fond, c'est vraiment ça nous réchauffe, enfin à moi personnel, ça me réchauffe le cœur de voir chaque jour des gens comme ça aussi qui passent juste vite en vélo, faire leur petit tour de vélo en disant ah ouais bonjour et puis on leur répond bonne balade ou quoi, mais c'est un beau échange. Et puis après il y a des gens qui restent aussi, qui discutent, qui nous posent des questions, comment justement ça fonctionne, quels sont nos besoins, qui sont vraiment vraiment très ouverts et très chaleureux aussi. Et puis c'est toujours la question comment nous soutenir, et puis ils voudraient tellement faire plus pour nous et puis pour en fait, cette lutte, et puis que tout ce monde, toute cette société, en fait, ça va pas comme ça, et puis on est un super exemple, et puis qu'ils aimeraient trop nous rejoindre, mais justement, ils sont encore dans cette société, et puis ils savent pas vraiment comment sortir. Et c'est vraiment, pour moi, ce sont des moments qui me donnent beaucoup, beaucoup de force.
Je pense que aussi, en tout cas localement, enfin, ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'années que la Farge aussi est présente. Je dirais même...
Alors, 1951, ça a commencé, ça fait un moment, hein, ouais.
Un peu plus, même 60 ans, enfin bref. Et il y avait eu déjà beaucoup de mouvements, d'associations, etc., qui avaient tenté d'arrêter cette mine. Et... c'était assez compliqué. Et du coup, j'ai eu rencontré des personnes ayant fait partie de ces mouvements à l'époque et même encore aujourd'hui, et en fait, qui ont vu que c'était impossible, en fait, d'arrêter la Fargolcim par ces biais-là, ou en tout cas très difficile, et qui, du coup, aussi étaient reconnaissantes de notre présence. Mmh. Après, je pense que, enfin, y a pas, c'est pas toujours rose et, enfin, rose. C'est pas toujours
positif.
C'est pas toujours positif. Je pense qu'il y a aussi des personnes avec qui c'est très difficile d'entrer en discussion, et des personnes qui sont opposées, bien sûr, à notre mode d'action. Et c'est aussi intéressant, ces questionnements-là, mais c'est vrai que parfois ça peut être assez intense, les échanges.
D'accord. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on peut dire que l'assise, elle est positive et que c'est tout de même, vous êtes tout de même dans un écosystème qui non seulement est beau, on l'a vu tout à l'heure, abîmé malheureusement par cette présence, ce parasitage, cet extractivisme, mais que la population locale a conscience, comme tu viens de le dire, de ce que vous représentez, des valeurs qui vous portent, quoi.
Je pense qu'on peut dire ça. Après, je pense que bon, c'est comme ils l'ont déjà dit, c'est un combat qui est déjà présent depuis longtemps dans le village des Clépans et dans le village de la Sarra. Après, je pense qu'il y a quand même une polarisation assez forte dans les opinions dans ces deux villages. Il y a ceux qui viennent nous voir et qui donc du coup sont passablement beaucoup pour nous et qui nous soutiennent. Il y a quand même pas mal de un soutien assez fort, mais il y a aussi quand même du coup ceux qu'on voit, c'est eux qu'on voit moins, qui sont plus à soutenir la Fargolcim en tombant un peu dans leur panneau, comme on parlait avant hors antenne de greenwashing, qui viennent nous dire il y en a deux trois qui sont compris quand même la peine de monter venir discuter, qui nous parlaient du fait que les carrières ça devenait des endroits extrêmement avec une biodiversité incroyable, parce que ça crée des endroits uniques, par exemple, pour des oiseaux, ce qui n'est pas faux, mais... Oui.
Non, mais ça, c'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que c'est une victoire qui a un coût tel que c'est plus une victoire, quoi. C'est comme quand on parle de l'excivisation pour aller extraire de l'or, hein, on sait que la Suisse, voilà, ou même de l'uranium, c'est qu'on y va avec des produits tellement toxiques que oui, bien entendu que la nature, d'une certaine manière, va se réapproprier, et c'est bien sûr, mais n'empêche que le coût est quand même vachement lourd, quoi.
C'est exactement ça. Et du coup, on remarque, ben, il y a ces habitants qui sont un peu, j'ai l'impression de ma vision de la situation, tombés un peu dans le panneau de ce greenwashing, et qui disent aussi, ben, évidemment, les avantages financiers, parce que c'est les Clépans, du coup, c'est une commune, du coup, qui reçoit beaucoup d'argent de la Fargeolcy, mais du coup, il y a aussi des impôts qui sont moins forts, ça crée des emplois, même si on voit aujourd'hui que les emplois, la plupart des personnes n'habitent pas avec les Clépans même. Enfin, bref, il y a quand même une scission et une polarisation de l'opinion qu'on ressent et qui est assez forte dans le village et dans notre occupation, et qui était déjà présente même avant notre occupation. Et c'est vrai que des fois aussi, on a quand même eu quelques visites de personnes assez, voire très à droite et assez offensives sur notre lieu, qu'on a heureusement, avec moult manières et mesures diplomatiques, réussi à partir sans trop d'encombre. Mais on a eu quand même deux, trois petits accrochages, on va pas se mentir, et c'est quand même, on sent quand même une polarisation assez forte dans le village. Les gens qui viennent chez nous, c'est beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. On a aussi la possibilité dans le village, comme j'ai dit avant, d'aller chercher de l'eau. On a des gens qui nous achètent du bois, et il y a aussi des gens qui nous permettent d'aller nous doucher, parce que notre système de, on a des douches, mais qui sont quand même passablement précaires et pas toujours très chaudes sur la colline. Voilà.
D'accord, donc rassurez-moi, vous essuyez des incidents, mais qui restent relativement gérables et qui ne vont pas au-delà de, j'imagine, enfin j'espère, de l'algarade, enfin de l'échange verbal. Enfin, vous avez pas, vous recevez pas. Parce que voilà, on a vent des fois d'entreprises qui, sous couvert, peuvent se comporter vraiment très très mal. Ok, alors écoutez, j'aurais encore voulu savoir, donc là on a parlé des voisins, ennemis ou alliés. Alors justement, ces alliés, quels sont-ils? Vous avez déjà ébauché la réponse, vous avez dit qu'il y avait des individus qui venaient, qui vous visitaient, également d'autres collectifs. Voudriez-vous nous parler un petit peu de vos alliés et des rapports que vous avez installés avec elles et eux, d'entraide et tout, ou est-ce que c'est un sujet un petit peu sensible?
Dans les alliés, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment justement d'autres collectifs. Comme vous me corrigez si je dis des bêtises. Donc, je disais qu'il y a différents collectifs et d'autres luttes aussi qui nous soutiennent, comme les climate strikes, les luttes féministes, les XR et ce genre d'autres mouvements. Et puis aussi des associations et certains partis politiques aussi qui nous soutiennent en fait tous de différentes manières, que ce soit des choses très matérielles à des soutiens vraiment plus je dirais philosophiques ou politiques, et qui créent en fait tout un univers et médiatique et réel autour de la ZAD et d'échanges, quoi.
D'accord. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ou c'était complet selon vous? Non, XR, on va juste dire XR, c'est Extinction Rebellion.
Je peux peut-être juste ajouter que on a aussi une grande collaboration avec l'association de la sauvegarde du Mormon. Oui. Et elle lutte depuis longtemps déjà pour cette colline.
Qu'en est-il des autorités communales? Quel rapport avec elles et eux? Sur quelle position sont-ils et sont-elles? On est au-devant, si je ne me trompe pas, chez vous, parce qu'à Genève, c'est également le moment, mais voilà. Il y a des élections communales qui approchent, si je ne me trompe, chez vous également. Est-ce que ça peut servir à quelque chose? Est-ce là un levier sur lequel on pourrait peser? Mais en tout cas, voilà, quelle est leur position et quels sont les rapports qui ont cours avec elles et eux?
On n'a pas de grands rapports avec la politique.
D'accord. Non, mais parce que certains auraient pu faire l'effort de se mouiller, quoi.
Avec la commune de la Sarra, c'est une situation un peu compliquée. Ils sont pas très contents de notre présence sur la colline. Mm-hmm. Ils ont d'ailleurs poser une plainte par rapport à la, l'insalubrité de la maison. Enfin, donc, en fait, ils ont demandé aussi de poser la plainte.
En gros, bon, il y a un historique, il y a un peu un historique avec la commune de la Sarra. Bon, on a été discuté avec eux au début de l'occupation, ce qui s'était extrêmement, voire très bien passé. À la fin, ils nous ont dit qu'on était tellement convaincants qu'on devait se lancer en politique. Mais on leur a expliqué gentiment que c'était plus notre mode d'action parce qu'on y croyait plus trop. Cependant, voilà, ça reste une commune un peu de droite et il y a des gens au sein de la commune qui nous soutiennent, mais majoritairement pas, surtout pas le syndic. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait le premier mouvement en fait légal à notre rencontre, en fait en nous enlevant le permis d'habiter de la maison. En fait, ils ont retiré le permis d'habiter à Holcim et en déclarant que la maison était insalubre. Ils l'ont fait d'ailleurs un peu sous le manteau, sans même venir visiter ni même constater l'insalubrité. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a forcé en fait Holcim à du coup porter plainte contre notre occupation. À l'époque, Holcim a pas été très réactif sur le fait de notre occupation. On a quelques doutes que c'était un peu lié au fait que c'était juste avant les votations sur les multinationales responsables et qu'ils voulaient pas faire trop de vagues le mois qui restait avant la votation. Mais du coup, ce mouvement de la commune, du coup, qui était quand même assez offensif, a lancé un peu les hostilités judiciaires, quoi.
Est-ce que vous pensez qu'on peut aller même jusqu'à des situations de collusion où on sait qu'évidemment les montants à la clé sont importants et que Holcim, avec son comportement sur lequel on va revenir, eh bien, pourrait avoir, sans aller dans la parano ou quoi, mais pourrait faire des signes, des appels du pied aux politiques en disant nous on est là, on amène de l'argent, donc il faut que vous nous dégagiez ces gens parce que leur projet c'est d'avoir cette énorme extension de la carrière et d'extraction du calcaire pour le ciment.
Alors c'est probable, hein. Enfin c'est assez complexe parce que actuellement la carrière actuelle se trouve sur la commune des Clépans, le projet d'extension se trouve sur la commune de la Sarra. Du coup, jusqu'à maintenant, la commune de la Sarra, du coup, qui a un peu lancé les hostilités, profitait pas directement de Holcim, mais ça va évoluer. D'accord. Il y a une autre carrière qui se trouve actuellement sur la commune de la Sarra, mais il y a une deuxième carrière dans le village. Donc, ouais, comme on peut le voir, par exemple, dans le documentaire mis au point, Holcim est extrêmement bien implanté, les gens qui travaillent là-bas, surtout dans des postes de direction, etc. À l'époque, c'était de moins en moins actuellement, vu que ça s'est pas mal délocalisé, mais c'était quand même pas mal de personnes du village qui travaillaient chez Holcim, et du coup, un peu toute la vie de ces deux villages est un peu habitée par ces carrières. Et du coup, c'est clair que autant l'intérêt financier que les gens qui ont travaillé là-bas pendant des années, c'est clair qu'ils ont été un peu séduits et pris main par la main un peu par Holcim ces dernières années. Et ils ont clairement un pouvoir dans le village qui est assez fort, quoi.
Concernant les médias, là, il me semble qu'il y a une couverture tout de même qui a cours et puis avec, une forme de regard, de distanciation assez intéressante ou pas. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Vous sentez que les médias qui vous approchent, on sent qu'ils ont un vrai intérêt à relayer cette expérience et à observer pour de vrai et à relater ce qui s'y passe, ou est-ce que là aussi vous êtes tout de même un petit peu suspicieux par rapport à ça? Je vous pose la question parce que dans certaines ZAD, et effectivement si on parle de cette ZAD historique, disons de Nantes, hein, Notre-Dame-des-Landes, eh bien là il était vraiment plus question que les médias les approchent, hein, c'était des automédias à l'intérieur qui produisaient l'information parce qu'il y avait vraiment de la calomnie, quoi. C'était systématiquement à charge. Alors qu'en est-il de votre situation et de ce que disent les médias de vos expérimentations?
Je pense qu'on a eu beaucoup de contacts avec les médias extérieurs aussi. Après, je pense que ça dépend beaucoup du type de médias. On a eu des médias clairement de gauche qui sont venus avec des propositions aussi plus poussé. Par exemple, on a bientôt plus qu'un article, en fait, une grande place dans le journal Moins qui va nous être dédiée. Il y a eu différents médias aussi alternatifs qui se sont approchés de nous, qui ont fait des sortes d'enquêtes ou de discussions plus poussées avec nous. Et puis, je dirais que les médias plus grand public ou les médias plus globaux sont aussi passés. Et ça, je trouve que globalement, ça s'est bien passé. Mmh. Après, c'est clair qu'on ne peut pas gérer tout ce qui sort et ce qui se dit sur nous, mais j'ai l'impression que généralement, c'était plutôt des bonnes choses.
Je suis d'accord avec ce qui est dit. Je suis aussi assez surpris que les médias, ou si vraiment les médias un peu, comme tu as dit, globaux, ils ont quand même... c'était pas mal. Et, enfin, ouais, ils étaient quand même assez bien ou bien correct ce qu'ils ont dit. C'est quelque chose de nouveau, on sait pas trop comment ça va évoluer, ce que c'est, et puis du coup c'était vraiment un peu de la curiosité, ouais.
Du coup j'ai quand même peut-être un point de vue un peu plus négatif quand même sur les médias que je voulais souligner. On remarque quand même que les médias grand public surtout, ils évitent le fond du sujet et ils restent extrêmement en surface en fait.
Ouais. D'accord.
Et on a mis pas mal d'énergie pour communiquer vraiment toutes les implications que le béton a, les alternatives, la profondeur de la crise climatique et écologique actuellement et son invisibilisation. Et puis, on se retrouve avec des médias qui vont vraiment en surface et ou dans l'émotionnel, où ils vont juste relater des témoignages très émotionnels de « Ah, je suis triste que la nature soit détruite », ce qui est vrai, mais ce qui invisibilise beaucoup souvent un peu vraiment le fond du problème, les alternatives, pourquoi on fait ça, et puis aussi peut-être le fait que cette colline, c'est une bataille dans une grande guerre pour le vivant, où vraiment on a une lutte qui est... Enfin, ouais, les écocides, c'est partout, etc. Et c'est vrai que des fois, ça se focus juste à... les zadistes qui veulent sauver la colline, alors que non, enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et on a eu beaucoup de peine, j'ai l'impression, à faire partager ce message et un peu à le répandre. Quoi. Donc, même si globalement, je suis d'accord que j'étais étonné en bien du fait que ça n'a pas été extrêmement incriminant et que les médias, tout ce qui était publié sur nous dans le grand public n'était pas à charge, mais quand même un évitement du sujet de fond qui est quand même dramatique pour des journalistes et de la presse, quoi.
C'est-à-dire qu'on est un peu indulgent parce qu'on a l'habitude d'avoir des trucs tellement outranciers en face que quand c'est juste soft, ça nous paraît être déjà un progrès, alors que comme tu le dis, et c'est extrêmement important que tu le précises, il s'agit là d'une lutte universaliste, fondamentale, quoi, de fond, et que le taire, eh bien, effectivement, c'est passé à côté de tout ce que vous faites, et c'est franchement dommage, quoi. C'est très regrettable, quoi. Ça, je suis totalement, évidemment, d'accord, quoi. Qu'est-ce que vous répondez si on vous demande, voilà, quelles sont vos aspirations? Vous êtes là, vous habitez là, est-ce que dans vos esprits, c'est quoi qu'il en soit, que un moment, une transition? Est-ce qu'à un moment donné, voilà, si, admettons que cette carrière, eh bien, ne se propage pas, ne s'étende pas, et qu'on sanctuarise le lieu, est-ce que vous questionnez, est-ce que vous avez déjà des intentions en disant, ben, on veut rester là, et puis continuer de vivre ici avec des modalités qui sont les nôtres, en opposition avec peut-être justement ce qui nous encercle, ou est-ce que vous vous retireriez, et puis, voilà, ben, la vie continue, quoi. Est-ce que vous vous questionnez par rapport à ça?
Bah, pour moi, la vie va certainement pas continuer normalement. Enfin, comme je vais certainement continuer dans soit dans d'autres ZAD ou dans d'autres mouvements comme ça. Parce que je pense que c'est pour beaucoup de personnes là-bas en haut, sur la colline, c'est plus possible de juste continuer à vivre, à avoir un...
Oui, il y a plus, il y a un cliquetis. Le retour en arrière ne s'envisage pas, d'une certaine manière.
Ouais. Enfin, pour moi, en tout cas, pas. Et puis après, pour la colline, pour moi, ce serait quand même. Je suis pas encore très décidée si c'est une bonne chose de rester ou bien s'il faut laisser ça à la nature. Parce que justement, on a toujours un impact. Dès qu'on est dans un lieu naturel, on a un impact sur l'environnement, sur les animaux, sur la flore et tout. Et du coup, c'est une bonne question. Est-ce qu'on reste ou pas? C'est une question assez difficile, je trouve.
Non, mais le but, c'est même pas d'y répondre tout de suite. C'est de se dire, on se questionne. ce processus-là de concert réconcilié de l'intelligence collective, d'être ensemble, horizontaux, horizontal, pour pouvoir se dire les choses complètement, eh bien, c'est en soi une réussite. C'est déjà un dysfonctionnement pour la manière dont on fonctionne dans le monde réel, dans le monde qui nous entoure. Le simple fait de se questionner de manière horizontale avec ces modalités-là que vous avez mises en place, c'est déjà, je trouve, quelque chose de fondamental. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que ça va produire que cette réflexion tout à fait inédite, vers quoi ça va nous mener, quoi. Voilà, enfin, quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à ça. Donc il y a vraiment les deux axes. Il y a le fait de se dire, est-ce que nous, on se sentirait de retourner dans le monde d'avant, et ça, c'est le premier volet, ou est-ce qu'effectivement, là, après une telle expérimentation, après un tel, voilà, une telle charge émotionnelle, on peut plus. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement, est-ce qu'on souhaite rester là, ou est-ce que bien ce projet pourra vivre autrement ailleurs.
En tout cas, à titre personnel, moi, je vois pas de, je me sens pas absolument pas de rester sur ce lieu. Pour moi, c'est un lieu éphémère, un lieu de lutte qui visibilise un problème réel, local et global, et que bien sûr, personnellement, je compte continuer à lutter contre ce problème global dans d'autres localités, mais ce lieu, c'est un lieu de biodiversité incroyable et qu'il vive.
Ouais. Par contre, vous, de manière personnelle, vous vous sentiriez de revenir à voilà ce monde-là qui est ce monde du dehors d'une certaine manière. Ou est-ce que personnellement vous serez amené, vous pensez à continuer à expérimenter le logement collectif, avec tout ce que ça contient de positif, bien entendu, mais également les moments un peu de crise, quoi.
Bon, après, je pense que vivre en ZAD de manière, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Pour avoir un peu le contexte, il y a un tel roulement de personnes, il faut avoir une telle énergie sociale que peut-être que vivre en ZAD toute sa vie, c'est peut-être pas l'objectif ou c'est peut-être pas possible pour tout le monde, mais en tout cas, c'est clair que de manière plus large, une fois qu'on a vécu dans ces lieux, qu'on se rend compte de l'aisance sociale, de l'absence de tabou, de cette un peu faculté supérieure à communiquer entre les personnes qui créent, parce qu'on sort un peu des codes et de la manière dont la société nous a construites. C'est clair qu'il n'y a pas de retour en arrière qui est possible, en tout cas pour moi, et je pense pour la plupart de mes copains, copaines qui traînent sur cette colline. Et je pense que on se rend quand même pas mal vulnérable en étant sur cette colline, en mettant quand même en jeu nos personnalités civiles. Et je pense que dès le moment où on a un peu fait ce chemin de pensée, ouais, le retour en arrière va être extrêmement compliqué pour beaucoup. Et puis c'est clair qu'on s'inquiète déjà de comment on va faire dans le contexte actuel qui est assez tendu niveau légal pour qu'est-ce qu'on fera ensuite, quoi, si on perd ce lieu, quoi. Mais c'est clair qu'on va pas pouvoir retourner dans nos petits appartements et dans notre petite vie d'avant et retourner travailler dans des jobs qui détruisent la planète, quoi. C'est juste impensable.
C'est-à-dire que c'est également, d'une certaine manière, un laboratoire, la ZAD, parce que, comme vous le dites, eh bien, la charge émotionnelle, mais également rationnelle, parce que c'est des pratiques également qui font que ça nous change et ça nous implique tellement fort que derrière ça, eh bien, voilà, il y a une prise de conscience qui a lieu et qui fait qu'on ne voit plus le monde de la même manière.
Un peu comme la pilule rouge dans Matrix.
Ouais, exactement. Non, mais c'est important de le dire également pour les personnes qui vont nous écouter. Je pense aux étudiantes et aux étudiants. Voilà, il y a une expérience de vie intense et qui est radicale au sein des ZAD également pour tout ce que vous venez de dire. Anne, tu veux t'exprimer par rapport à ça?
Bah oui, pour moi c'est justement, je crois que je l'ai déjà dit, que je vais jamais pouvoir.
Ah oui, pardon.
C'est vraiment un lieu, j'ai jamais vécu aussi beaucoup de moments intenses dans tellement peu de temps, et puis c'est juste une richesse absolue, quoi. Ouais. Et c'est un laboratoire aussi, voilà, il y a chaque jour qui est différent, et c'est un laboratoire, on regarde ce qu'on peut faire avec nos capacités.
Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.